France Inter.
Radio Star Berlin.
It's one of the different from NPR News. Radio Star
Berlin.
France Inter. Le 18-20, Fabienne Saintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans une Russie attaquée par le I.
Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
C'est Vladimir Poutine, évidemment, qu'on entend au lendemain de l'attaque du Crocus City Hall. Tous ceux qui ont exécuté, planifié ou ordonné ce crime seront à juste titre et inévitablement punis. Peu importe qui ils sont et d'où viennent leurs ordres, dit Vladimir Poutine, qui se dit en passant, n'a toujours pas cité le nom de l'État islamique au moment où on se parle et pour des raisons internes qu'on imagine. Bonsoir Hugo Michel.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des questions djihadistes et de leur mouvance. Vous êtes maître de conférence à l'École des affaires internationales de Sciences Po. Vous avez notamment écrit, c'est votre dernier ouvrage, La colère et l'oubli, en 2023, l'année dernière, chez Gallimard. Hugo Michron, quand on a appris que l'EI revendiquait l'attaque de Moscou, on s'est d'abord dit, mais qu'est-ce que vient faire l'EI à Moscou ? En réalité, vous qui travaillez sur ces questions, vous n'êtes, semble-t-il, pas étonné plus que ça, même pas étonné du tout, en fait.
Non, au contraire, il y a une très grande antériorité de l'activisme djihadiste contre la Russie. On en trouve les prémices très tôt déjà. Pour ce que ça vaut, il faut rappeler que le djihadisme international a pris forme en Afghanistan suite à l'invasion soviétique. Donc les premières graines, si vous voulez, de la mouvance djihadiste internationale se sont construites contre l'ennemi soviétique. Après, les origines de ce qu'on voit aujourd'hui prennent forme autour de la guerre de Tchétchénie, notamment qui émerge à la fin des années 90 et surtout au début des années 2000. Et c'est très intéressant...
Donc la deuxième guerre de Tchétchénie, celle de Poutine,
c'est
précisément.
Celle, exactement. Ouais. Et c'est ça qui est très intéressant d'entendre Poutine maintenant, parce qu'en fait, il a des propos presque qu'on pourrait mettre en parallèle avec ceux qu'il avait tenus au tout début des années 2000, lorsqu'il commençait à affirmer son pouvoir sur la Russie, et qu'il avait dit, suite à l'attentat, on s'en souvient, hein, contre l'opéra de Moscou, qui avait été aussi un drame absolu, qu'il irait traquer, pardon l'expression, c'était comme ça qu'il s'exprimait
jusque
en
russe. Jusque dans les chiottes, c'était
voilà.
Ça. Ouais.
Et donc, en fait, Poutine a construit une grande partie de sa légitimité sur les 20 dernières années, autour de sa capacité à être, si vous voulez, une sorte de miroir de l'Occident, un homme fort qui réussirait à vaincre les islamistes par la manière forte. Et on voit bien que ce que révèle cet attentat, qui vient frapper la Russie dans le dos alors qu'elle est projetée sur l'Ukraine dans une guerre qu'elle a causée, alors même que les opposants à Poutine sont traqués par les services secrets, on voit bien que là, il y a une faille. Et c'est ça qui est politiquement, je pense, très très dur à gérer pour Poutine.
Alors on parle de l'EIK, donc l'EI du Khorasan, la branche, une des filiales, c'est la branche afghane, comme il y a une branche du Sahel, une branche de l'Indonésie, mais à quel moment elle est devenue la plus grosse branche de l'État islamique ? Est-ce que c'est parce que vraiment elle se renforce ou parce que les autres ont perdu du pouvoir ?
C'est les deux. Donc en fait, on la voit émerger, cette branche, elle apparaît il y a 10 ans, quand Daesh commence à prendre du poids en Syrie, en Irak, il ouvre plein de branches, et notamment ils vont réussir à mettre le pied en Afghanistan, et ça c'était un point de crédibilité important pour les djihadistes de Daesh dans la galaxie djihadiste, parce que l'Afghanistan, c'est la terre originelle. Donc de réussir à monter une filiale au milieu des années 2010 en Afghanistan, c'était déjà fort. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec les effondrement de Daesh en Syrie et en Irak, il y a beaucoup d'individus qui se sont enfuis. Et pour ça, évidemment, ils sont remontés, ils ont quitté via la Turquie, via l'Asie centrale, et ils ont terminé en Afghanistan. Et depuis le retour des talibans en 2021, en fait, Daesh en Afghanistan tond la laine sur le dos, si vous voulez, d'Al-Qaïda et des talibans, et donc ont sécurisé une partie du territoire. Ils ont commis un certain nombre d'attentats contre le Pakistan, on l'a oublié, mais il y a eu des attentats de Daesh contre le Pakistan qui ont été très violents, ce qui était très grave déjà. Ça montrait une capacité d'exporter les attentats contre l'Iran le 3 janvier dernier, contre la Turquie peu après, et désormais contre la Russie. Et ça, il faut prendre en compte également toute la déstabilisation de certaines sociétés d'Asie du centre. À ma connaissance, cette filiale de Daesh en Afghanistan, c'est la seule aujourd'hui qui est capable de véritablement projeter des attentats vers l'extérieur.
Alors, on va y revenir parce que c'est ça qui est à la fois, j'allais dire, intéressant et en tout cas inquiétant pour nous. Est-ce qu'on parle de gens qui sont partis en Syrie et qui sont revenus, ou est-ce qu'on parle de gens qui sont plutôt restés justement à l'intérieur de ce foyer-là, sachant très bien ce qu'ils allaient y faire derrière?
Alors justement, il y a les deux, et c'est là où c'est très intéressant de regarder l'origine des assaillants. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il en est des assaillants, mais par contre, de l'environnement tadjik et ouzbek. Ouais. On sait que les assaillants sont tadjiks. En Afghanistan, c'est très intéressant parce que les réseaux tadjiks et ouzbeks sont d'abord impliqués dans la guerre de Tchétchénie des années 2000, au début des années 2000. Et ils vont lutter contre la Russie dans ce cadre-là. Et avec la défaite des djihadistes, ils vont partir en Afghanistan. Mmh. Donc on va avoir des réseaux tadjiks et ouzbeks rejoindre en fait Al-Qaïda. Dans leur sillage, on va voir des réseaux turcs. Dans leur sillage, on va voir des réseaux turcs en Allemagne, puis des Allemands. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des filiales allemandes autonomes en Afghanistan autour de 2010-2011, qui vont progressivement basculer sous Daesh quelques années plus tard. Et donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la connexion tadjik et ouzbek au sein de Daesh en Afghanistan, je suis désolé de la complexité.
Non, mais je vous en prie.
Si vous nous suivez, c'est bon.
Soyons nuancés et complexes, ouais.
La mouvance tadjik et ouzbek fait le lien avec énormément de mouvances djihadistes, que ce soit les caucasiens, donc les ingouches, les tchétchènes, que ce soit les européens, via les turcs, via les allemands, et éventuellement les réseaux de Daesh qui étaient en Syrie, en Irak, et qui ont rebasculé vers l'Afghanistan.
Parce que c'est la question que j'allais vous poser. On se rend bien compte qu'ils sont capables de se projeter, effectivement, et cette attaque en est vraiment la preuve. Et quand on peut se projeter, on peut évidemment se projeter bien plus loin, et y compris chez nous, et au-delà encore. Mais est-ce que, vous nous avez bien expliqué d'où venait, y compris, le ressentiment vis-à-vis de Moscou. Donc est-ce qu'ils ont intérêt à aller se projeter au-delà de la Russie, au-delà de Moscou, au-delà de Vladimir Poutine? Est-ce que c'est leur intérêt? Est-ce que c'est un des objectifs ou pas?
Oui, enfin, les djihadistes sont très opportunistes, ils font feu de tout bois, donc s'ils ont du personnel à disposition, les moyens, les ressources, les réseaux logistiques, ils passent à l'acte, en fait. C'est ça et c'est important là-dessus de peut-être de voir quels sont les moyens dont ils disposent. En fait, il y a trois types, classiquement, d'attaques djihadistes. Il y a les attaques projetées, ça c'est ce qui vient de se passer à Moscou, ce qu'on a vu aussi en Iran au début du mois de janvier, c'est les plus durs à mettre en place pour les djihadistes. Il leur faut beaucoup d'hommes, de la logistique, de l'armement. Il faut qu'ils montent une cellule, donc qu'ils ne se fassent pas détecter, et qu'ils mettent en place un complot. Donc ça, c'est typiquement ce que mettent en place les djihadistes dans ce que j'appelle la marée haute, c'est-à-dire quand ils ont des moyens assez importants. Et on voit là que désormais, Daesh en Afghanistan dispose de ces moyens pour commencer, alors par cercle concentrique, ils ont d'abord visé l'Afghanistan, le Pakistan, désormais quelques pays d'Asie centrale, et désormais l'Iran et la Russie. Et on sait qu'il y a eu des attentats déjoués de ce même groupe, via les mêmes réseaux, c'est-à-dire des réseaux entre les Turkmènes, les Ouzbeks, les Tadjiks et peut-être aussi les Tchétchènes et les Ingouches, vers l'Allemagne et vers la France, qui ont été déjoués. Donc signe que la réponse sécuritaire en Europe est bonne de ce point de vue-là. Mais par contre, c'est nouveau depuis le 2021 que des groupes djihadistes affiliés à Daesh puissent à nouveau projeter des attentats. Et donc ça montre bien que l'Afghanistan est devenu, contrairement à ce que disaient les talibans, est redevenu une place forte du terrorisme international.
Emmanuel Macron a même parlé, je crois que c'est 17, le chiffre qu'il a cité. Je ne sais pas si c'est 17 venant de cette mouvance-là, mais enfin ça dit leur force. Moi aussi j'ai lu, notamment sur Mediapart, citant des services de renseignement, l'Inde, l'Allemagne, l'Iran, l'Espagne, même les Maldives ou des attentats ont été déjoués. L'attaque, elle est très organisée, effectivement, elle est aussi très spectaculaire. Est-ce que c'est aussi un avertissement qui nous dit ça? Nous avons désormais, à nouveau, les moyens de faire des choses spectaculaires comme nous en avons déjà vu. Là, en France, pour le coup, on est très bien placé pour le savoir. Est-ce que c'est un avertissement, ça? Ou est-ce qu'on se dit qu'un truc spectaculaire à ce point-là ne peut être que unique et en tout cas espacé par beaucoup de temps?
Non, c'est vrai que ça résonne très fortement en France, pour des raisons évidentes suite au 13 novembre 2015. Et là, ce qui est très frappant, c'est que la réaction des autorités russes ayant tardé, ils ont pu aller très loin dans l'horreur. Et donc, en fait, ça pose tout un tas de questions. Et c'est évidemment ça que Poutine essaye de dissimuler aujourd'hui en essayant de mettre tout ça sur le dos de l'Ukraine. On voit que Medvedev, les événements n'étaient pas finis, qu'il citait déjà l'Ukraine. Et ce qui est très fascinant, c'est... alors que cette horreur était en train de se dérouler, on avait déjà en ligne, sur les réseaux sociaux, de l'instrumentalisation de ce qui était en train de se passer avec des gens qui désignaient des coupables en fonction de leurs agendas politiques. Et ça, c'est peut-être une nouveauté par rapport à ce que nous, on a connu il y a 10 ans. C'est que désormais, comme on est dans une situation de guerre mondiale informationnelle, le moindre événement, et notamment les plus surprenants comme les attentats terroristes, sont instrumentalisés par diverses mouvances.
Mais est-ce que ça veut dire, Hugo Michereau, qu'en termes de retentissement, cette attaque a le même poids ou pas qu'une attaque façon Bataclan, etc.? Parce qu'on entend bien Vladimir Poutine essayer de la mettre, non pas sous le tapis, puisqu'on a vu des images à la télé qui sont d'ailleurs assez terribles, de torture en direct, etc. Mais en même temps, en niant que ça peut être l'État islamique, sans prononcer son nom. Donc en termes de retentissement pour eux, j'y mets des guillemets, est-ce que ça a le même sens que chez nous ou ailleurs?
Oui, c'est même peut-être plus grave dans le sens où, comme c'est un régime autoritaire qui, justement, a beaucoup capitalisé sur sa capacité à éliminer cette mouvance, là, la résurgence, c'est le fait que c'est, il faut le dire, hein, l'attentat le plus grave commis en Russie par des djihadistes, ça fragilise quand même beaucoup du narratif russe. Et souvenez-vous, hein, qui, il y a 10 ans, pénétrait largement les débats européens, puisqu'on avait des gens de tous bords politiques qui expliquaient que la Russie, finalement, avait sans doute trouvé une solution face à l'islamisme. Donc, c'est ça que ça vient fragiliser. Donc, bien au-delà du cas de la Russie, cet attentat est riche d'enseignements, et je pense qu'il faut pouvoir l'interpréter dans sa totalité.
L'opportunisme des terroristes, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, la Russie est tournée vers l'Ukraine, elle est tournée vers tout à fait autre chose. Je me demandais si, par extension, on sait bien qu'il n'y a pas de rapport entre le Hamas et Daesh en soi, enfin, il y a un mouvement djihadiste, un mouvement qui ne l'est pas, ils étaient même très rarement d'accord entre eux, mais est-ce que cette déstabilisation-là, et notamment déstabilisation occidentale à l'intérieur de nos sociétés, est aussi un vrai terreau aujourd'hui pour Daesh et pour les groupes comme celui-là?
Oui, absolument, il y a deux choses qui sont très importantes de comprendre déjà, qu'on a du mal à voir. Déjà, Daesh et le Hamas, ce sont des groupes non étatiques. Et on voit bien que depuis 5 ans, il y a énormément de groupes non étatiques qui ont une influence colossale sur les relations internationales. Donc les djihadistes, le Hamas, Wagner, les Houthis, le Hezbollah, et c'est marrant, on a dû un mal fou à penser les relations internationales en mettant ces acteurs au cœur, alors qu'ils le sont. Le deuxième élément, vous l'avez dit, c'est que depuis le 7 octobre, il y a une guerre mondiale informationnelle qui se produit autour de Gaza et qui en fait produit un climat incitatif de passage à l'acte, et ça les djihadistes essayent de capitaliser là-dessus. Alors, ils n'ont pas forcément de quoi projeter des attentats, mais par contre, ils peuvent inspirer des attentats. Ça, c'est un autre type d'une autre catégorie d'attentats, et c'est plutôt ce que la France a subi et ce qu'on a connu en Europe ces dernières années, qui montre que même avec moins de capacité, ils peuvent essayer d'instrumentaliser des situations. Tout ça nous montre quand même que le djihadisme est un acteur géopolitique et pas simplement un groupe qui de temps en temps se réveille.
Et qu'il sait lire effectivement comment fonctionne la géopolitique et les divisions occidentales et autres. Hugo Micheron, merci beaucoup.
Merci.
Vraiment de votre passage chez nous.
Le 18-20, Fabienne Sintès sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe en Ukraine, où vous découvrirez qu'on fabrique aussi armes et munitions sur le territoire. Pour aller jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufraîche sous les radars.
En Irlande, où le futur Premier ministre est un pro de TikTok.
Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Madbon, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. On verra pourquoi il faut s'inquiéter des tensions en mer entre la Chine et les Philippines.
Et la BO du Monde, Cyril Sauvageau, salut Cyril.
Bonsoir, c'est l'artiste suédois le plus écouté au monde, 15 milliards d'écoutes sur Spotify. Pourtant, vous ne le connaissez pas. Il s'appelle Johan Rohr et son business model, c'est de produire la musique instrumentale de façon anonyme et en quantité industrielle. Un phénomène en plein essor, mais qui pose quelques questions.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète, ce n'est pas fini. Voici les Libertines, Night of the Hunter. Le titre inspiré, bien sûr, de la nuit du chasseur avec Robert Mitchum. Love et Hate sur chacune des deux mains. Extrait du dernier album du groupe de Pete Doherty qui sortira la semaine prochaine. Tiens.
Of a blade on the knuckles, round the handles of a blade, a bloody blade. Now here it comes, all the flashing lights and sirens. How you know it won't be long? Time for the radio to play your last song, your last song. Just calling to tell you, baby, that they're taking me away for a while. Well, don't blame me, it's the world that made me, and they're taking me away for a, taking me away for a. Phone the missing.
S-E-A-B. Tatted on your knuckles, does the world know what it means? Oh, now they're slipping on the bracelets. Are you so young and hard and mean, so cold and mean?
And the radio says,
I'm just calling to tell you, baby.
C'est en Ukraine que nous emmène le reportage d'Un jour dans le monde ce soir. L'Ukraine qui manque d'armes et de munitions, on le sait, on le dit depuis des mois. Les livraisons des alliés occidentaux que nous sommes tardent à venir à hauteur de ce qu'il faudrait pour permettre à l'armée ukrainienne ne serait-ce que de ne pas reculer sur son propre territoire. On a donc cette image d'une Ukraine ultra dépendante de l'aide militaire internationale. Mais il se trouve que le pays possède aussi un complexe militaro-industriel qui tente de faire face à la demande exponentielle de la guerre. Et le reste, c'est Camille Magnard qui raconte.
Je m'appelle Bogdan. Je suis le responsable de cet atelier où se fait le dernier assemblage de nos mortiers d'artillerie. On fabrique des mortiers de calibre 120, 82 et 60 mm. Nos fonderies nous envoient les canons et les socles. On les assemble, on les vérifie et on envoie le tout à l'armée.
Bogdan ne nous donnera pas son nom de famille pour des raisons de sécurité, dit-il. Interdiction également pour nous de localiser précisément l'endroit où nous sommes, une zone industrielle dans la lointaine banlieue de Kiev. Ici règne le secret défense, justifié par le directeur général adjoint de l'entreprise Ukraine Armor, Maxime Poliviani.
Les entreprises de production militaire sont des objectifs prioritaires des attaques ennemies. Ces derniers mois, les frappes sont de plus en plus ciblées. L'usine où on se trouve ici est la cible numéro 1 des Russes.
L'entreprise, spécialisée dans les pièces d'artillerie et les véhicules blindés, a dû repenser sa production de fond en comble depuis 2 ans, l'éparpiller sur plusieurs petites usines discrètes un peu partout sur le territoire. Situation complexe pour l'industrie de l'armement ukrainien, ou ce qu'il en reste. D'un côté, la guerre fait exploser la demande de la part de l'armée. D'un autre, elle complique énormément l'organisation de la filière.
C'est compliqué, bien sûr. Beaucoup d'usines sont endommagées par les missiles russes. D'autres ont dû déménager. On a des ruptures dans la chaîne de production parce que certaines entreprises avec qui on travaillait se trouvent aujourd'hui en zone occupée. Un autre problème, c'est la planification des commandes de l'État. Notre pays est en guerre et notre état-major ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans 1 mois, dans 6 mois ou dans 1 an.
Malgré ces contraintes, chez Ukraine Armor, on ne cesse de renforcer ses activités. Ce que confirme Ruslan, responsable de la branche véhicules blindés, autour des modèles Novator et Novator 2 qui font sa fierté.
On a beaucoup augmenté notre volume de production ces 2 dernières années. Notre but, c'est d'arriver à produire 1 véhicule par jour. Ici, on fait les réparations et l'entretien technique de nos engins. Ce sont des véhicules qui reviennent des combats. Certains ont eu des problèmes classiques ou des impacts de tir sur le blindage. On les répare et on les renvoie sur le front.
Forcément, la guerre toute proche change tout dans la manière de produire du matériel militaire. Elle donne surtout un supplément de motivation à Ruslan et à son équipe.
Les gars savent ce qu'ils ont à faire. Ils comprennent qu'on protège des vies, qu'on sauve notre pays. Pour eux, ce n'est pas un problème de rester travailler au-delà des heures de travail, les week-ends ou les jours fériés. Certains vont même réparer des blindés jusqu'à 2 ou 5 km des lignes de front. On ne fait pas ça si on n'est pas très motivé.
À l'arrivée, c'est le directeur adjoint Maxime Poliviani qui l'affirme, l'industrie ukrainienne de l'armement fait tout ce qu'elle peut pour répondre à l'effort de guerre.
L'Ukraine est capable de produire suffisamment pour couvrir à 100% les besoins de son armée pour les véhicules blindés et les mortiers, les systèmes de brouillage électronique et les drones. Par contre, pour l'aviation, les munitions, les radars et les batteries anti-aériennes, là on est complètement dépendant de nos partenaires occidentaux.
Ces indispensables livraisons étrangères, elles ont aussi fait de l'Ukraine un lieu d'expérimentation pour les marchands d'armes du monde entier, une vitrine où certains prévoient même d'installer des usines. Pour des entreprises comme Ukraine Armor, cela crée une véritable concurrence, mais elles ont obtenu de Kiev qu'une priorité soit donnée à la production nationale, quand c'est possible, dans les achats de l'armée.
Camille Magnard pour le reportage en Ukraine, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche.
En Ecuador fue asesinada Brigitte García, l'alcaldesse.
Et nous sommes d'abord en Équateur avec un visage qui est à la une de tous les médias, Kevin.
Oui, celui de Brigitte García. À 27 ans, elle était la plus jeune maire jamais élue dans le pays. Maire de San Vicente, petite station balnéaire d'un peu plus de 8000 habitants. Hier, elle a été retrouvée morte dans sa voiture avec son directeur de la communication, tous les deux tués par balle selon la police, d'après qui ces assassinats semblent liés au trafic de drogue qui gangrène le pays. Ce nouveau meurtre d'une personnalité politique montre que l'Équateur n'arrive pas à s'extirper de cette spirale de violence, alors même que l'état d'urgence est toujours en vigueur. Ça va faire 3 mois, déclenché après l'évasion de Fito, le chef de l'un des plus gros gangs de narcotrafiquants équatoriens. Brigitte García était membre de Révolution Citoyenne, le parti de gauche de l'ancien président Correa. L'actuel président Daniel Noboa, élu en fin d'année dernière, a annoncé l'ouverture immédiate d'une enquête.
Et nous voici maintenant aux États-Unis avec un accident pas vu depuis 20 ans.
Mais un homme de 21 ans est mort samedi suite à l'attaque d'un puma, aussi appelé lion des montagnes. Ça s'est passé à Georgetown, un village situé dans la Sierra Nevada californienne. Il se promenait en forêt en compagnie de son petit frère lorsqu'ils ont été attaqués par le félin. Le plus jeune a survécu, mais son frère a donc succombé à ses blessures touchées au visage. Le puma était toujours sur les lieux à l'arrivée de la police qui a tiré à plusieurs reprises pour l'effrayer. Il a finalement été localisé puis euthanasié d'après les autorités locales. Ce genre d'événement est extrêmement rare. D'après le New York Times, la dernière attaque mortelle par un puma en Californie date de 2004 et on dénombre 6 décès depuis la fin du 19e siècle.
Et puis nous sommes en Irlande où le futur Premier ministre a déjà sa petite notoriété sur les réseaux sociaux.
Et oui, Simon Harris compte plus de 170 000 abonnés sur Instagram, quand l'actuel Premier ministre Leo Varadkar en a 200 000. Et surtout, le nouveau chef du Fine Gael, le parti de centre-droit au pouvoir, est suivi par près de 100 000 personnes sur TikTok, le réseau social chinois dont il a su adopter tous les codes.
My perspective on at a higher education level, what we've actually seen is more leaving search channels.
Voilà extrait d'une de ses vidéos, la reprise de l'un de ses passages médias avec de la musique en fond, des vidéos de moins d'une minute, sous-titrées, montage rapide où il s'adresse souvent à ses abonnés directement. Recette bien connue sur TikTok. Il faut dire que malgré sa chevelure grise, Simon Harris a 37 ans. Il va devenir le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République d'Irlande. On le surnomme déjà TikTok Taoiseach. Taoiseach, c'est le mot gaélique pour désigner le chef du gouvernement en Irlande. Bon, une fois en poste, Simon Harris aura-t-il le temps d'échanger toujours autant avec sa commu? Rien n'est moins sûr.
Voilà, allez, soudain j'ai 100 ans. À demain, Kevin, vous partez en passant par le Royaume-Uni avec Jimmy Callum, Wind Cries Mary. C'est la reprise de la chanson de Jimi Hendrix.
Jacks are in the boxes, and the clowns are all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers Mary. Broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife, and the wind cries. Traffic.
traffic lights turn blue tomorrow. Shine the emptiness down on my bed. The tiny island, it sags down the street. Cause the light that they leave there. And the wind screams, Mary.
Cullum, Wind Cries Mary, dans Un jour dans le monde. Il est 18h presque 50, l'heure de prendre des nouvelles du monde, précisément à cette heure-ci. Franck Madfou.
Fabienne Saint-Esse.
The world has changed.
How dare you!
Le 18-20.
Et Franck, le ton monte entre la Chine et les Philippines. Et ce soir, vous nous dites justement pourquoi les tensions entre ces deux pays portent les germes d'un conflit plus large.
D'abord, un peu de géographie. Connaissez-vous, Fabienne, le banc Segond Thomas?
Oui, absolument.
Eh bien, vous mentez.
Oui.
C'est un tout petit atoll en mer de Chine méridionale que personne ne connaît. Il fait une vingtaine de kilomètres de long, il est bordé de récifs coralliens. Il est situé à 200 kilomètres environ à l'ouest des Philippines et à plus de 1000 kilomètres de Hainan, l'île chinoise la plus proche. Les Philippins l'appellent l'atoll Ayungin. Pékin et Manille revendiquent la zone maritime et donc ce minuscule morceau de terre dont l'intérêt est essentiellement stratégique pour asseoir son autorité sur le confetti. Un navire militaire philippin y a jeté l'ancre dans les années 90 et n'a plus bougé depuis. Il est aujourd'hui complètement rouillé d'ailleurs. Des soldats vivent pourtant à bord en permanence. Il faut les ravitailler régulièrement. Et c'est une mission de ravitaillement qui a mal tourné avant-hier. Des gardes-côtes chinois ont visé au canon à eau le bateau philippin venu en soutien, blessant 3 soldats.
Et ce qui a déclenché donc une crise diplomatique entre la Chine et les Philippines.
Indignation en effet des deux pays. Les Philippines font part de leur vive protestation. Pékin accuse Manille d'avoir violé ses engagements. Et cette journée de lundi aujourd'hui s'est terminée par un coup de fil tendu entre les vice-ministres des Affaires étrangères des deux pays. C'est la deuxième fois en moins de 3 semaines qu'un incident survient précisément à cet endroit. C'est aussi arrivé en fin d'année dernière. Depuis environ 1 an, la Chine multiplie les démonstrations de force pour faire valoir son autorité en mer de Chine méridionale, qu'elle revendique presque en totalité. Pourtant, en 2016, la justice internationale lui a donné tort. Il faut redire que nous sommes ici loin des premiers grands territoires chinois. Pendant longtemps, Pékin se contentait de missions d'espionnage ou de survol des zones maritimes, des manœuvres dites de zones grises. Désormais, la Chine passe à l'action.
Et alors pourquoi ces intimidations chinoises, Franck, sont-elles inquiétantes?
Mais parce que la toile de fond de ces tensions, c'est bien sûr, Fabienne, l'affrontement sino-américain. Les États-Unis et les Philippines ont signé en 1951 un traité de défense mutuelle et à Manille, le débat porte aujourd'hui sur l'activation de cet accord. Faut-il une réponse militaire commune? Pour le moment, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. n'y est pas favorable, mais il met en garde contre d'éventuelles erreurs de jugement des militaires qui pourraient entraîner les deux camps dans un engrenage. C'est la crainte dans cette zone indo-pacifique. Pour défendre leur souveraineté, les Philippines, de retour donc dans le giron américain après la présidence Duterte, cherchent de nouveaux alliés stratégiques. Le gouvernement discute d'accords militaires avec près d'une vingtaine de pays, l'Inde, l'Union Européenne, le Royaume-Uni, le Japon. La Chine s'agace de cette résistance philippine. Elle se crispe aussi, on le sait, depuis l'élection en janvier à Taïwan d'un président qui lui est hostile et prendra ses fonctions en mai dans cette mer de Chine par laquelle passe 1/3 du commerce maritime mondial. Pékin montre les muscles. Les États-Unis, eux, soutiennent leurs alliés et le seuil du conflit militaire se rapproche.
Franck Madvon, merci beaucoup. À demain. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute le rythme de la planète, c'est la BO du monde.
France Inter. Le 18-20.
Et cette semaine, Cyril, vous vous penchez sur un phénomène en plein essor sur les plateformes de streaming, les playlists instrumentales, à écouter en fond sonore pour le travail, pour le sport, la relaxation, ce que vous voulez. Alors, on ne sait pas toujours qui se cache derrière ces musiques anonymes. En tout cas, ça peut rapporter gros.
En témoigne l'histoire d'un certain Johan Röhr. Vous ne le connaissez pas, c'est normal. Ce musicien basé à Stockholm est un parfait inconnu. Il est pourtant devenu l'artiste suédois le plus écouté sur Spotify avec 15 milliards d'écoutes. C'est plus que ses compatriotes de ABBA, plus que Mariah Carey, Britney Spears ou Metallica. Comment expliquer ce succès absolument colossal? Écoutons d'abord un extrait de sa musique.
C'est sûr, c'est pas Metallica.
C'est sûr. Alors ça, c'est un aperçu d'une playlist Spotify intitulée « Piano in the background ». Le morceau est attribué à une pianiste, Maya Astrum, sauf que Maya Astrum n'existe pas. Elle fait partie des 650 avatars différents derrière lesquels se cache Johan Röhr. C'est le quotidien suédois Dagens Nyheter qui a mené l'enquête et a dévoilé l'identité de ce musicien qui bénéficie d'une mise en avant assez incroyable dans les playlists d'ambiance conçues par la plateforme, comme celle-ci qui s'appelle « Calme », tout simplement. Alors, si vous avez fait la différence avec le morceau précédent, bravo.
Je vous appelle, mais non.
C'est à peu près la même chose. Ici, l'artiste s'appelle Chizmazia Etel. Ailleurs, il peut porter un nom à consonance grecque, russe ou japonaise. Et à chaque fois, il y a derrière un visuel, une pochette d'album qui, en fait, n'existe pas. Et toujours, derrière cette musique, le même homme, Johan Röhr, qui encaisse les royalties.
Donc, le musicien en question s'estime dans son bon droit. Après tout, rien n'interdit de faire de la musique sous pseudo, non?
Non, mais bien sûr, c'est même un procédé très répandu. Mais ce qui interroge ici, c'est la dimension industrielle de la chose. On parle de 2700 pièces instrumentales disséminées sous tous ces pseudos. C'est ce qu'on appelle produire de la musique au kilomètre et de façon interchangeable. Et puis, on peut surtout se questionner sur l'utilisation qu'en fait Spotify. Comment un artiste sorti de nulle part peut-il se retrouver sur près de 150 playlists maison, sachant que certaines totalisent plusieurs millions d'abonnés. Autant dire que figurer dans une de ces playlists, c'est quasiment la garantie de toucher un vaste public. Autre exemple ici, hein, 21 millions d'écoutes.
Autre exemple, ah bon ?
Oui, pour ce morceau qui est inclus sur la playlist « Reprise relaxante au piano ». Pourtant, allez-y, faites une recherche sur Internet sur l'artiste Aldemar Borrego. Vous ne trouverez rien, c'est encore un profil fantôme.
Cyril, derrière cette histoire de faux profils, il y a toute la question de la mise en avant des artistes des plateformes.
Mais oui, tout cela alimente la critique qui est souvent faite aux plateformes, et notamment à Spotify, celle de n'être qu'un robinet à musique où les artistes plus confidentiels ou originaux sont noyés dans la masse et souvent payés au lance-pierre. Alors forcément, quand on découvre que certains produisent à tour de bras une musique sans âme et sans identité réelle et que cette musique-là est à ce point mise en avant, forcément, ça pose question. La réponse de Spotify, nous ne faisons que satisfaire une demande. La plateforme souligne l'engouement du public pour la musique d'ambiance, ces playlists instrumentales conçues pour accompagner la vie de tous les jours, le petit déjeuner, le footing du dimanche, le dîner entre amis.
On ne peut pas avancer vite avec ça en footing. Enfin bon.
Alors, pour le footing, c'est peut-être pas le meilleur plan. Mais la réalité, c'est que ces playlists fonctionnent très très bien et que de plus en plus d'auditeurs, d'utilisateurs des plateformes utilisent ces playlists. Le risque, c'est d'accélérer l'uniformisation de la musique avec la répétition à l'infini. On l'entend des mêmes formats et des mêmes mélodies. À ce rythme-là, on peut se demander si on aura encore bientôt besoin d'être humain pour composer, puisque peut-être qu'une intelligence artificielle fera l'affaire.
Qu'on entend là quand même, c'est l'araignée gypsy version musique d'ascenseur, ce qui est quand même assez inédit, je dois dire. Cyril Sauvageau, merci. On va pouvoir l'interrompre, du coup, on n'a aucun souci à le faire. Ça
on
s'appelle
peut y aller.
La BO du Monde et vous revenez lundi prochain. Le 18-20, la suite, c'est Hélène Philippe pour le journal de 19h. Juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefebvre.
Bonsoir à tous.
Et ce soir, la question qui fâche, pour faire des économies, faut-il renoncer à notre modèle social?
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a relancé le débat. C'était sur France Inter il y a une semaine.
Je crois un État qui protège. Je crois à notre modèle social. Je crois à l'hôpital public. Je crois à l'école publique. Je crois à la nécessité de protéger les plus faibles. En revanche, je ne crois pas à l'accumulation de dépenses année après année qui deviennent des acquis sur lesquels on ne bouge pas.
Alors, est-ce qu'il faut tout revoir? Vraiment, on énerve Desmond sur WhatsApp avec notre thème de la soirée. Comment les journalistes de France Inter peuvent-ils, hostiles, évoquer et éventuellement soutenir la réduction des services publics quand les services publics sont déjà en déshérence, littéralement détruits? Alice sur WhatsApp, je reprends le serpent de mer qui revient à chaque fois qu'on parle de modèle social. Quid de la taxation des revenus du capital au même taux que les recettes du travail? Cédric, pourrait-on mettre en place une déclaration de toutes les aides sociales sur la déclaration des revenus et de l'autre, peut-être arrêter les cadeaux fiscaux et autres défiscalisations?
01 45 24 7000 pour poser vos questions à Mickaël Zemmour et à Dominique Seux ce soir. Allez-y, c'est le même numéro vers WhatsApp.